Bien, mon instrument, donc, c'est le didgeridoo. C'est un instrument, le didgeridoo. C'est un instrument à la base donc d'origine aborigène qui vient d'Australie, qui est à la base essentiellement fait en eucalyptus. Pour le faire donc vibrer, il suffit juste de faire vibrer ses lèvres comme un cheval va huer en fait.
Oui.
C'est le même système, ou comme pour jouer dans une trompette, c'est le même système.
Même
Après, c'est
système
juste une
que.
question de respiration continue en fait. Il y a peu de trompettistes qui aujourd'hui le font alors que il est faisable à la trompette comme à tout instrument avant.
Oui.
Il suffit juste en fait de comprimer l'air en utilisant une pression avec les joues pour sortir l'air et pendant ce temps-là, on peut respirer. C'est comme pour continuer à faire des bulles dans un verre d'eau. C'est le même système avec une paille. Quand quelqu'un essaie de faire des bulles dans un verre d'eau, en général, tout le monde arrive à le faire très vite et
Oui.
en continu. Et voilà, c'est le même système.
Et le bois, c'est quoi?
Alors le bois, moi, mon instrument là, je ne sais pas du tout en quel bois il est parce que la personne qui me l'a vendu m'a expliqué qu'en fait ce bois-là, il vient d'Afrique. Et en
Oui.
Afrique, il est utilisé pour faire de l'huile, pour faire des charpentes, pour faire beaucoup de constructions en Afrique. Il est très utile. Et pour
Oui.
éviter que beaucoup de personnes en fassent un commerce énorme, il a préféré ne pas me diffuser en fait
Le nom du
le nom du
bois.
bois. Donc je ne sais
Voilà.
pas du tout en quel bois il est. Et je pense qu'il a tout à fait raison parce qu'il sonne très. C'est un bois qui sonne très bien.
Ah oui,
En,
oui.
en, enfin, pour faire un didgeridoo, en tout cas, il est très bon. Et certaines personnes pourront faire beaucoup trop de commerce, je pense, par
Ah
rapport à
oui,
ce que l'Afrique en
d'accord.
toucherait à côté.
Oui.
Car c'est un bois
Et
qui pousse en
c'est
Afrique.
quand même une question de souffle un
C'est un
petit
travail
peu
de souffle, ouais.
ininterrompu, quoi. Parce que moi,
Bah,
j'ai un
en fait.
frère qui est trompettiste. Tu veux, je connais un petit peu quand même la question. Et c'est quand même une question de souffle au
Ah
départ.
oui, enfin, c'est une question d'entraînement. Hein. Le souffle, de toute façon, il n'y a pas de. Même avec, comme je disais tout à l'heure, avec quelqu'un, un coureur, il a besoin de travailler son souffle comme un trompettiste, comme un musicien qui a besoin de son souffle pour jouer. Et moi, je souffle en continu dans mon instrument. C'est vrai qu'après, si on fait des rythmes plus calmes, on peut très bien respirer tout doucement. Mais dès qu'on attaque un peu de vitesse, il est
Il faut
nécessaire de
du
savoir, il
souffle.
faut beaucoup de
Oui.
souffle, une bonne cage thoracique, je pense. Enfin, c'est un travail là-dessus, en fait.
Donc le bois, on peut pas savoir.
Et le bois, on peut pas savoir. En général, en Australie, la tradition s'est faite en eucalyptus.
Ah oui,
C'est-à-dire
c'est
qu'on va
l'eucalyptus.
prendre sa branche dans un arbre mort, on va
Oui,
la couper en
d'accord.
haut et arriver en bas, c'est un didgeridoo. Les termites ont fait tout le reste et voilà.
C'est Australie.
Ça vient d'Australie,
Ah
la
oui,
région nord
d'accord.
d'Australie. C'est la dernière région aujourd'hui qui est encore active au niveau aborigène et encore au niveau didgeridoo.
Ah
On
oui,
croise
d'accord.
aujourd'hui beaucoup de gens dans la rue qui jouent du didgeridoo en Australie, dans la partie nord, et beaucoup de façon traditionnelle. Il reste très peu de personnes, enfin de tribus aborigènes. Il en reste très
D'accord.
peu.
Merci.
Moi, j'aimerais bien que tu parles un peu de ton association Armorigène. Quels sont les instrumentistes qui jouent du didgeridoo et autres instruments locaux dans le monde? Et qu'est-ce qu'ils font? Et où est-ce qu'on peut les trouver à travers la
Alors,
France et en Belgique et en Suisse notamment?
notre association est située à Rennes. Elle s'appelle Harmonigène. On est je sais pas, une vingtaine, je pense. On joue presque tous du didgeridoo et autrement les instruments dont on propose donc l'apprentissage, c'est la guimbarde et le chant diphonique. Donc c'est l'association est surtout basée là-dessus, didgeridoo, chant diphonique et guimbarde. Et on peut nous retrouver donc tous les mardis soirs au Sablier. Je ne sais plus les horaires, mais je crois que c'est à partir de 8h30 jusqu'à 10h30. Donc pendant 2 heures, c'est libre accès à tout le monde. N'importe qui peut venir, même non membre de l'association, peut venir jouer. C'est vraiment que pour un plaisir de jouer là au Sablier. Tandis qu'à côté, nous avons d'autres animations, des stages de didgeridoo où on part un week-end, enfin pas un week-end, mais souvent toute une journée et après la soirée forcément continue quoi, à faire de la musique, mais une journée où des profs sont là pour nous et nous apprendre le didgeridoo. Après, pour la guimbarde, c'est le même système. Seulement, les profs sont, on va dire, moins expérimentés qu'avant. On peut... Enfin, moins expérimentés. C'est-à-dire que Nico était un professeur avant et il est parti en Inde. Quand il est revenu d'Inde, il a appris beaucoup sur le chant diphonique. Il a apporté beaucoup à l'association. Et aujourd'hui, les personnes qui pratiquent le chant diphonique sont aptes, grâce à Nico, on peut le dire, et grâce à leur travail aussi, à donner des cours. Et... mais juste, enfin, ça va être des bases du chant diphonique. La guimbarde un peu plus approfondie, car on a des personnes qui jouent quand même pas trop mal de la guimbarde aujourd'hui. Et voilà.
J'ai une question. Moi, je me demandais si vous essayez aussi de fabriquer des instruments, parce que j'ai cru savoir qu'on pouvait faire avec des types de PVC, des didgeridoos et des choses comme ça.
Ouais, tout à fait. Alors, en fait, nous, dans notre association, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de week-end d'organiser, mais en général, une fois par an, il y a une sortie didgeridoo avec l'association où on part on part dans les bois, en fait, tout un week-end. On part, chacun choisit sa branche. Chacun repart dans son coin. Le week-end d'après, en fait, toutes les branches, nous, on les a récupérées, on les a données à quelqu'un pour nous les scier en deux. Une fois qu'elles sont sciées en deux, le travail se poursuit. En fait, on les creuse tous ensemble et on les recolle et voilà. Bon, cette année, c'est un peu spécial parce qu'avant, on faisait tout ça gratuitement. Aujourd'hui, en termes d'association, enfin, il y a plein de choses qui changent et je sais plus les tarifs pour partir tout un week-end où tout est pris en charge, bien sûr, par l'association. Mais je crois ça partir sur une base de 100 € pour aller fabriquer son didgeridoo et apprendre à le fabriquer.
Je pensais plutôt à des matières beaucoup moins nobles là.
Le PVC après, ouais. Oui, c'est très facile. Hein. Ouais. Moi au travail là, j'ai un tube pour passer des câbles en fait, pas très grand et qui me sert voilà de temps en temps quand j'ai rien à foutre au boulot quoi. C'est rare, mais après le PVC ça marche très bien.
Parce que je sais pas si tu dois peut-être connaître un truc qui s'appelle Blue Man Group là. Tu connais peut-être pas?
Non.
Et ils fabriquent des instruments un peu sur le même. Je sais pas comment on appelle, des instruments vibratoires ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, où tu souffles dedans et ça vibre et ils ont fait plein de trucs complètement bizarroïdes.
Oh, il y a de tout. Moi j'ai vu des didgeridoo en forme d'escargot, en poterie, des trucs comme ça et ça sonne exactement pareil. Hein. Ça dépend vraiment de la matière dans laquelle on l'a fait. Après, c'est clair, c'est facile de faire un didgeridoo en PVC. Moi-même, j'en ai un que j'ai acheté à l'époque parce qu'il y a une décoration dessus, mais qui marche très très bien. Après, ce qui est important, si on veut faire un didgeridoo en PVC, il vaut mieux prendre du vinyle en fait. C'est une sorte de PVC et c'est celle qui marche le mieux. C'est celle qui va ressortir au niveau du son le mieux. Après, pour commencer, c'est bien, mais après, c'est comme tout instrument. Hein. Mais ça marche très bien le PVC, hein. Ça marche très bien. Ah non, c'est pas une question de bois du tout. Hein. Un PVC, ça marche très bien. Hein. Moi, j'en ai un, il marche très très bien.
Avez-vous déjà essayé de le passer dans un vocodeur?
Dans un
vocodeur.
Un vocodeur.
C'est en fait une prise microphone de l'instrument et on le passe à travers des formants, donc une note, une tonalité ou un accord face à un synthétiseur.
Non jamais
essayé. Ça sera essayé, je sais pas,
une prochaine fois alors.
Peux-tu nous expliquer ta technique pour souffler dedans, grossièrement quoi?
Ben, en fait, j'utilise trois façons en fait de respirer.
Les sons.
Je respire de trois façons. Je respire avec les joues, je respire avec la gorge et je respire avec les joues et la gorge. Ça dépend vraiment de la sonorité que je cherche. Après, le travail des joues, comme je disais tout à l'heure à madame, c'est on va lancer tout l'air qu'on a dans nos poumons, on le met dans les joues. Donc les joues sont gonflées à bloc. Et sans le souffler, sans sortir l'air avec nos poumons en fait, sans faire dans le didgeridoo, c'est les joues qui vont comprimer l'air et qui vont le ressortir de derrière jusque devant. Comme ça. Et pendant ce temps-là, on peut respirer. Après c'est... Voilà. Ça c'est avec les joues. Après avec la gorge, c'est la glotte. Il faut trouver le moyen de faire bouger juste la glotte de la gorge toute seule. C'est-à-dire sortir juste un... Voilà. C'est là, c'est que là qu'il sera travaillé. Après, on peut utiliser les deux en même temps. Et dans ce cas-là, on a aussi besoin de la langue. La langue qui va aider la gorge à pousser l'air. Et en même temps, on va avoir les joues qui vont se gonfler et qui vont se décomprimer en même temps. Et voilà, ça c'est les trois techniques de souffle.
Il n'y a pas du tout de respiration par le ventre.
Alors, en fait, au didgeridoo, on respire
on
beaucoup.
On dit toujours que c'est très important pour certains instruments de respirer la respiration par le ventre. Mm. Donc moi, je pensais, en vous voyant jouer, qu'il y avait cette respiration par le ventre. Quand
alors, il y a la respiration par le ventre, oui. Mais en même temps que le ventre, il va se gonfler et se dégonfler pour donner l'impulsion.
Oui, mais il est présent quand même.
En même temps, quand on respire, c'est ici que ça, enfin, c'est au niveau du thorax que ça va se passer.
Ah
ça,
oui,
pas.
D'accord.
Et en même temps, il faut gonfler l'ventre. On est tout le temps en mouvement en fait. C'est soit le ventre, soit la cage thoracique. Ça dépend. Après la cage thoracique, on va avoir le ventre pour pouvoir pousser l'air. Et la cage thoracique
oui,
pour pouvoir respirer
ça.
Avant de pouvoir le pousser.
Donc il y a forcément une respiration par le ventre.
Il y a une respiration par le ventre. Pour donner une impulsion et pour donner un impact à la sonorité.
D'accord. Merci.
Ouais, alors moi je me demandais si à partir du son qui est assez caractéristique, tu arrivais à essayer de le retraiter numériquement pour s'amuser à rajouter des effets ou des choses comme ça, quoi.
Alors non, ça j'ai jamais fait. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Enfin, j'ai eu l'occasion de le faire chez moi avec un ami qui est avec mon coloc qui a une table de mixage et puis des machines. Là, on a bidouillé un peu le son de temps en temps et oui, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal pour des gens qui vont faire du son, on va dire. Moi, je cherche surtout pas forcément la façon traditionnelle de jouer, mais garder le son propre du didgeridoo et en faire ce que moi j'ai envie d'en faire en fait. Après, tout ce qui est machine derrière ou les pédales d'effet, les wah-wah et tout ça, c'est très bien à utiliser dans le didgeridoo et ça donne des effets énormes. Moi, c'est pas ce que je recherche.
Mais ça se fait quoi.
Mais ça se fait.
Tu joues avec un instrumentiste, notamment un batteur. Quelle est ta démarche avec le batteur?
Alors, ouais, je joue avec un batteur. On a un groupe depuis peu qui s'appelle Hidaki Drum. Et une façon de travailler, ça a été simple. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais travaillé vraiment avec quelqu'un. Surtout avec un batteur ou avec un percussionniste juste de temps en temps, peut-être avec un percussionniste quoi, que je connais très bien. Cette personne-là, je savais pas trop comment elle jouait à la batterie, mais je savais qu'elle savait beaucoup se servir de tout ce qui est tom, cymbales et tout ça, savoir vachement varier ses rythmes. Et puis on a travaillé ensemble. Moi j'ai apporté des rythmes et lui il a apporté des rythmes et on a essayé de coïncider les deux, trouver des liaisons et travailler sur des appels, sur des choses comme ça, et sur le marquage du temps aussi. Et sur des façons d'accélérer, que ce soit la batterie. Enfin, avec un batteur, c'est très facile d'accélérer un morceau. On s'en est vite rendu compte, et après le didgeridoo, il suit derrière, ça se fait très bien, quoi.
Alors, tu sais que l'interview va passer en licence libre et l'enregistrement qu'on a fait donc tous ensemble est pas terrible, donc on va prendre simplement que des extraits qui passent relativement bien. Ça va être en licence art libre. Qu'est-ce que tu en penses de la licence art libre?
Je pense, moi, que c'est une très bonne chose. D'une première part, c'est une très bonne chose pour faire connaître des artistes, comme ce soir, par exemple, où des gens vont venir visiter votre site. Et ensuite, ça donne un libre accès à plein de logiciels qui peuvent servir à plein de personnes qui font du son, qui font de la musique, qui enregistrent des choses. Et ça donne un libre accès, alors que le prix du logiciel normal est plutôt assez cher. Et toutes les personnes, tous les musiciens n'ont pas forcément les moyens de se payer un logiciel vraiment top du top. Et après, au niveau du libre, on a moyen de faire exactement la même chose, donc pourquoi pas.
Je peux me permettre de compléter ce que tu dis. L'intérêt aussi que tu peux avoir avec, en utilisant des logiciels libres, c'est d'avoir une relation étroite avec le créateur, en fait. Donc, si tel programme ne correspond pas tout à fait à ce que tu veux, ton avis intéressera le développeur dans la mesure où il essaiera de comprendre pourquoi et peut-être expliquer comment l'utiliser ou bien définir de nouvelles règles, quoi. C'est pour ça que c'est une relation bidirectionnelle, quoi, d'utilisateur et développeur, quoi. C'est des échanges que t'as pas eu l'habitude d'avoir avec des logiciels propriétaires où t'es juste un consommateur et le seul échange que t'as, c'est un échange financier, quoi. Donc voilà, dans cette idée, par exemple, tout à l'heure, je parlais de bricoler des instruments, etc. On pourrait très bien imaginer un mouvement qui justement essaye de partager les connaissances, mettre des plans à disposition, etc. quoi. C'est un peu dans cette logique-là que le logiciel libre est fait. Donc est-ce que
avec ouais, c'est vrai, moi je connaissais pas trop à la base avant les logiciels libres, c'est que depuis peu là que je savais qu'il y avait ça. Donc.
Mais bon, c'est juste, c'est normal à chaque fois.
C'est très intéressant en tout cas de savoir qu'il existe ce genre de choses, quoi.
Ben, le logiciel en soi, ça peut paraître compliqué, mais ce que l'idée de partager, tout le monde l'avait avant, quoi, partager des recettes de cuisine, etc. Fait, la question ne se posait pas, quoi. Ça se faisait naturellement. Donc la musique, c'est pareil, il y en a un qui partage justement le fait que t'es peut-être mis sur un livre des quelques extraits qui ont été enregistrés ce soir. Moi, si je veux m'amuser à faire un morceau et que je me dis, ce petit riff, il a l'air sympa, je vais le sampler, le boucler, etc. Et toi, tu peux te retrouver
Mais c'est très bien comme ça. La musique, c'est fait pour être partagée de toute façon à la base.
Mais ça se faisait de façon naturelle avant, mais maintenant, l'idée de le formaliser, ça permet justement que les gens soient pas biaisés et qu'on sache clairement les tenants, les aboutissants, quoi.
Ouais, tout à fait.
Sachant que l'idée les gens qui samplaient de la musique, etc., au départ, ils n'ont pas attendu que les morceaux soient libres, ils l'ont fait de façon spontanée, même si c'était illégal, quoi. Et ça posait des problèmes après, d'ailleurs. Voilà.
Eh ben, je vais conclure, alors. Ben, merci, Beck. Bravo.
De rien.
On peut l'applaudir. Eh bien, si ton temps est disponible, tu peux revenir quand tu veux pour assister à d'autres instrumentistes qui font leur présentation de leur instrument. Puis nous, avec des logiciels libres, on va tenter de les enregistrer avec nos moyens, nos compétences techniques. Et en plus, ce qu'on désire faire, c'est faire rencontrer des musiciens et des techniciens et voir des ingénieurs ou voir futurs ingénieurs donc en informatique et qui font de l'informatique libre. Si ces gens-là peuvent collaborer parce qu'ils ont des besoins en tant que musiciens, parce qu'ils ont l'oreille fine, et d'autres qui ont le technique informatique et leur savoir-faire de programmation, si ces gens-là peuvent se rencontrer, je pense que le logiciel libre peut avancer nettement plus vite, suivant le temps et la disponibilité de chacun, bien évidemment. En tout cas, merci Beck d'être intervenu.